Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Bonjour Benoît Coquille, nous vous accueillons au Festival du Premier Roman pour l'émission Lecture en tête à tête. Et lors de cette édition, on est ravis de vous rencontrer pour les petites choses qui ont remporté le prix du deuxième roman. Pour que les personnes apprennent à vous connaître, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de vous ?
Alors bonjour et puis merci de m'accueillir à nouveau à Laval. Alors moi j'enseigne la littérature latino-américaine et l'histoire latino-américaine et l'espagnol, un peu tout ça, à l'université à Amiens. Et puis j'écris en parallèle, donc là c'est mon deuxième livre. Les deux ont un rapport avec l'Amérique latine. Le premier se passait plutôt en Argentine, et puis celui-ci entre le Mexique, les États-Unis et la France.
Justement, ce premier roman, Buenos Aires n'existe pas, je ne sais pas si je le dis bien en mode espagnol ou pas, mais en tout cas, vous étiez effectivement parti plutôt en Amérique du Sud avec Marcel Duchamp. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce premier roman ?
Il s'agissait effectivement d'une petite enquête sur quelques mois passés par l'artiste Marcel Duchamp en Argentine, à Buenos Aires, entre 1918 et 1919. En fait, j'ai découvert, parce que je lisais des choses sur lui, sur Duchamp, qui est un artiste que j'aime bien, qui m'intéresse depuis longtemps. Je suis tombé, en fait, quand je lisais une de ses biographies, sur cet épisode-là, argentin, dont on sait presque rien. On sait qu'il fuit la France aux alentours de 1914 pour fuir la guerre. Il part à New York et en 1918, les États-Unis rentrent en guerre à leur tour, donc il repart. Et puis il choisit l'Argentine sans qu'on comprenne trop pourquoi. Il parle pas l'espagnol, il connaît à peu près personne là-bas. Donc il y a comme ça une forme de disparition de Marcel Duchamp pendant. Il va y rester 9 mois. Et l'idée était de partir de cette parenthèse, de ce blanc dans les biographies, au milieu d'une vie qui est très documentée, très connue. On sait à peu près tout ce qu'il a fait. Et à cette époque-là, il est déjà très célèbre. Partir de ce blanc biographique et puis se mettre à imaginer ce qu'il a pu voir, faire. Voilà, c'était aussi l'occasion de décrire l'Argentine de l'époque, des années 10, 20, qui est en plein boom migratoire, puisqu'il y a beaucoup de bateaux avec des Européens qui viennent s'installer en Argentine. Voilà, c'est une période d'effervescence politique aussi très forte. Je me suis basé sur vraiment trois bouts de ficelle, enfin trois fois rien sur côté Duchamp, puisqu'il a écrit quelques lettres, c'est tout, qui apparaissent dans le livre, et le reste est de l'invention.
Comment on en arrive à se dire, tiens, je vais écrire mon premier roman sur ce petit trou, ce petit laps de temps où on ne connaît rien, pour cet auteur-là, enfin cet auteur, pardon, cet artiste-là.
Mm-hmm. On peut dire auteur, il a écrit pas mal de choses.
Il a écrit aussi, ouais, c'est vrai.
Ça marche. Comment c'est venu ? C'était un peu à la croisée de deux centres d'intérêt, deux passions, puisque comme je le disais, Duchamp, moi je l'aime beaucoup, je le connaissais depuis longtemps, c'est une figure qui m'intrigue, qui m'amuse. Et puis il se trouve que moi je suis spécialisé sur la littérature argentine et l'histoire de l'Argentine du XXe siècle, toute cette période justement d'immigration italienne notamment, etc. Donc là en fait ce micro-épisode biographique rejoignait mes deux centres d'intérêt. Je me suis dit là il y a matière à roman, il y a matière à récit Et voilà, bon, après c'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps, que j'ai écrit sur plusieurs années, de façon très en pointillé, de façon très hachée, et qui a évolué aussi en cours d'écriture. Mais c'est venu de là, ouais.
Et comment on en arrive à se dire, au bout de quelques années, voilà, j'ai écrit plein de petites choses, ou beaucoup de textes sur cette histoire, et comment on en arrive à se dire, ça va être un roman, je vais pouvoir peut-être l'envoyer aux éditeurs? Ou est-ce que je peux tenter ma chance ?
C'est venu en cours de route, ça. C'est vrai que je me suis dit... alors, ça faisait longtemps que j'écrivais, mais vraiment des choses très, très courtes, très fragmentaires, beaucoup de chroniques musicales à un moment. Et je n'arrivais pas à me lancer dans l'écriture au long cours d'un roman. Ça m'impressionnait beaucoup. Et je me suis dit, bon, je tente quand même, j'écris des bribes, des fragments, et on verra bien ce que ça donne avec cette idée qui me tenait quand même. C'était un peu la première fois que ça m'arrivait, de me dire, là, j'ai une idée qui mériterait quand même d'être... ça mérite de s'y accrocher, quoi. J'ai repoussé les sirènes du découragement qui sont quand même assez fréquentes. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai constitué une sorte de trame, et puis ça tenait debout, donc ça s'est fait comme ça. Et puis, miraculeusement ou pas d'ailleurs, le confinement est arrivé et m'a aidé beaucoup à mettre un coup de collier, à finir la rédaction, en fait. Ça a été vraiment déterminant, ça, ce temps disponible là pour finir le livre.
Et la sélection, comment on apprend votre style nous intéresse et on va vous éditer? Ça se passe
alors, la
facilement
phase, la phase de contact, il y a eu plusieurs périodes, à vrai dire. J'étais sur le point de... J'avais fait des tirages, des photocopies, une quinzaine. J'étais sur le point d'envoyer la première salve aux éditeurs qui m'était le plus cher. Et puis entre-temps, une amie d'amis qui avait travaillé dans l'édition m'a dit « Attends, avant de faire ça, tu sais que le taux de réussite avec l'envoi par courrier est quand même très réduit. Je peux essayer de contacter moi les gens que j'ai toujours dans mon répertoire. » Puis ça a pris beaucoup de temps, ça donnait pas grand-chose. Et puis en fait, un an après cette discussion avec cette amie Marguerite à qui on a retravaillé le texte, ça s'est fait par une lointaine connaissance qui est devenue mon éditrice, Emmanuelle Lay, chez Flammarion, qui a tout de suite aimé le texte et qui l'a lu dans la librairie de Marguerite, est rentrée chez elle pour le finir. Et puis le lendemain, elle m'appelait, elle m'a dit « on le publie à la rentrée ». Il faut se dépêcher par contre parce qu'on est en mars, donc voilà. Et puis tout s'est fait d'abord très lentement, puis très vite.
Oui. Et alors comment on en arrive à se dire « bon, j'ai mon premier roman, j'aimerais bien écrire le deuxième ». Où là on arrive aux petites choses, qui a quand même remporté le prix du deuxième roman de l'association Lecture en Tête. Comment on en arrive à se dire « allez, c'est parti, on met la machine en route et on repart sur ce deuxième roman ».
Alors, il n'y a pas eu vraiment de moment comme ça, puisque j'étais déjà en train de commencer à écrire le deuxième quand le premier n'était pas encore publié. Il y a des temporalités comme ça que je découvre depuis peu dans l'édition qui font que en fait, les textes se croisent. Mmh. Et donc, j'avais déjà eu l'idée de départ, le déclencheur de petites choses, quand Buenos Aires n'était pas encore, ou était sur le point d'être publié. Mmh. Donc j'ai pas eu ce temps de creux qui peut être parfois angoissant dans lequel je suis actuellement pour le troisième justement. Ça s'est fait, il y a eu une espèce de tuilage comme ça en fait.
Ouais. Et alors cette histoire de petites choses, comment on en arrive à écrire cette histoire? Beaucoup de documentation.
Oui. Beaucoup de documentation et puis une découverte première au tout début. En fait, j'étais en voyage au Mexique et ça s'est fait par hasard. Ce personnage de Maria Sabina qui va être central dans le livre s'est tourné vers moi, s'est présenté à moi de façon complètement inattendue sous la forme d'un t-shirt imprimé dans un stand dans un grand marché à Oaxaca, qui est une des grandes villes du sud de Mexique. Donc j'ai découvert cette effigie, cette icône populaire qui était Maria Sabina au Mexique, qui est en fait qui a été la grande guérisseuse chamane qui utilisait les champignons, les psilocybes, les champignons hallucinogènes, et qui est devenue une espèce d'icône hippie dans les années 70 au point qu'elle est aujourd'hui encore représentée sur des t-shirts qu'on peut acheter donc marchandisée.
Oui,
ça dit beaucoup de l'histoire que je raconte, que ce t-shirt avec le visage de Maria Sabina qui au début n'avait rien demandé.
Okay.
Donc en tout cas, ça s'est fait comme ça au cours d'un voyage au Mexique. Et puis je suis rentré, l'idée m'est restée en tête. Encore une fois, je sentais que l'idée était... j'arrivais pas trop à la chasser de mon esprit, donc c'était quand même un signe. Après a commencé une longue phase de recherche, de documentation vraiment de tous azimuts. Où j'ai lu la vie de Maria Sabina, beaucoup de choses sur les mythologies indigènes du sud Mexique, des traités de mycologie, de chimie, des récits de tripes, beaucoup aussi. Enfin, vraiment, ça m'a amené à toute une masse de documentation très, très hétéroclite, à tel point que je me suis retrouvé un peu noyé même à un moment sous les documents. Mais voilà, longue phase de recherche. Ouais.
Alors c'est vrai que quand on lit le roman, on sent bien cette documentation. C'est vrai qu'on sent le livre très documenté. Alors, c'est quoi ces petites choses ?
Alors les petites choses, en fait, c'est le nom du psilocybe, du champignon hallucinogène qu'utilisait cette Maria Sabina. Elle l'utilise pour plusieurs choses. Il a plusieurs fonctions dans l'ethnie Mazatec, dont elle est une des membres, qui vit donc au sud du Mexique, dans les montagnes. C'est des champignons qui sont utilisés de façon strictement sacrée, rituelle, très rituelle. Pour plein de choses, guérir les corps déjà, hein, c'est une des premières fonctions. Les gens viennent parce qu'ils souffrent de maux psychiques ou physiques. Mmh. Et Maria Sabina ingère les champignons et soigne par ce biais. Mais ça sert aussi à retrouver des objets perdus, à prédire l'avenir parfois, à communiquer avec les gens qui sont loin. Enfin, c'est très polyvalent.
C'est trop
et c'est elle
pas
qui
mal,
les appelle petites choses. Oui, oui, très utile.
Ça donne envie.
Oui. Et les petites choses, c'est le nom qu'elle leur donne. Alors c'est traduit en français. Mmh. Elle leur donne un nom espagnol. Elle parle mazatec, mais de temps en temps espagnol. Elle dit las cositas. En tout cas, elle a toujours des périphrases affectives pour les nommer. Elle dit jamais champignons, évidemment. Pour elle, c'est pas des champignons, c'est los niños santos. Elle dit aussi les enfants saints.
D'accord.
Les enfants chéris, les enfants saints, les anges.
Donc il y a une connotation aussi religieuse.
Oui.
Qui revient aussi ouais, assez régulièrement, qu'on retrouve aussi dans le roman. Les deux personnages, le couple new-yorkais, est-ce qu'ils ont vraiment existé ?
Alors oui. De façon générale, quasiment tout est vrai dans le récit. La fiction, elle intervient assez rarement en fait dans des scènes de zoom comme ça, où on est vraiment à côté des personnages et où l'archive, le document me manquait pour imaginer la scène. Ou plutôt, j'ai dû imaginer la scène parce qu'il me manquait. Mais je dirais que c'est véridique à 90% ou 80% ce qui est raconté dans le livre. Et donc les Wasson, c'est d'autres protagonistes, les autres personnages principaux avec Maria Sabina du livre. Là, on est du côté États-Unis, New York, effectivement. Et en fait, les Wasson, c'est un couple d'ethnomycologues, donc des gens qui se passionnent pour les champignons, et en particulier les champignons hallucinogènes, mais qui vont commencer à faire ça en autodidacte pur et dur. Lui, il est banquier, en fait, à la base, ce qui paraît très improbable. Rien à voir, il est vice-président de JP Morgan à l'époque, donc une des plus grandes banques encore aujourd'hui. Et puis elle est pédiatre, donc elle est scientifique quand même, hein, y a un lien. Et puis, ils vont se prendre de passion pour les champignons, lire plein de choses, parcourir le monde pour aller herboriser à droite à gauche et trouver le champignon que oublié, utilisé par une ethnie asiatique au fin fond de l'Asie ou au Mexique. En fait, ils arrivent dans les années 50 au Mexique. On leur a dit qu'il restait un champignon, un psychotrope encore inconnu des Occidentaux. Mmh. Qui serait encore utilisé au sud du Mexique à des fins divinatoires, de guérison, etc. Et donc c'est le futur psilocybe tel qu'il va être nommé par la science occidentale. Et eux, ils arrivent dans les années 50, ils tombent sur cette Maria Sabina au cours de leur deuxième voyage, qui va être en fait la première Mazatec à accepter de les initier à ce champignon, non seulement à leur montrer un rituel de transe, mais aussi à leur faire goûter le champignon, et ça c'est un moment un peu historique, c'est un peu le point de bascule dans mon livre en fait, où les premiers occidentaux goûtent ce champignon là, ce qui n'avait jamais ce qui n'était pas arrivé avant. Et à la suite de cette collision là interculturelle, il y a toute une suite d'événements inattendus qui vont se dérouler et l'histoire s'accélère à partir de là.
Oui, après on sent que
ça s'emballe
vite. Ouais, c'est ça, au même rythme que les visions, le travail aussi avec ce champignon, les effets qu'on peut retrouver aussi sur le corps aussi, qui sont plutôt très bien décrits. Et c'est très poétique aussi, il y a beaucoup de poésie. Et du coup, vous travaillez comment la poésie du texte ? Est-ce que, parce qu'il y a l'histoire d'un côté, il y a quand même une écriture, une recherche dans l'écriture, et en même temps on sent que c'est une poésie, mais la lecture est facile quand même.
Ça c'est vrai que c'était un peu un des buts. C'est une histoire qui peut être assez dense en termes d'informations, de termes scientifiques, Voilà, enfin moi dans ma documentation, je suis tombé sur des ouvrages vraiment très très pointus de spécialistes de champignons. Enfin, mais je pense que ça, d'une part, ça m'a, j'en ai fait un allié, que toute cette terminologie scientifique très compliquée, ces mots latins de champignons, que je me suis dit, mais là il y a déjà une poésie en fait qui est présente dans ce jargon scientifique que je veux utiliser aussi pour la tourner aussi en dérision, pour utiliser les mots latins. Enfin, ça m'amusait de faire ça. Et puis après, je voulais que ça se lise quand même comme un roman, même si quasiment tout est vrai, que ça se lise pas comme une enquête historique, que ça puisse se lire avec le plaisir du roman, la fluidité romanesque. Mmh. Et sur le style, la poésie, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Moi, je lis pas mal de poésie. Je me suis amusé, comme j'avais fait dans le premier, à cacher des vers de poèmes de Rimbaud, de Baudelaire, qui sont comme ça planqués au milieu de la prose et que le lecteur ou la lectrice peut s'amuser à débusquer. Mais puis je trouve que le sujet en fait portait à cet onirisme.
Ouais,
je me suis beaucoup amusé à écrire des scènes de tripes sous champignons, en me basant sur des récits de gens qui avaient expérimenté, mais aussi en me laissant aller à de la description.
Ah, que de l'imaginaire, vous n'avez pas testé C'est alors, tentant de poser la question.
Bah, les deux. Il y a eu expérimentation directe. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, l'expérimentation, moi, je l'ai faite après la lecture, l'écriture du livre. Parce que, en fait, l'occasion ne s'est pas présentée quand j'étais en train d'écrire. mais pourtant, l'envie ne manquait pas. C'est plutôt que j'attendais d'avoir un environnement safe, être avec des amis, et ce truc-là se présentait pas quand j'étais en train d'écrire. J'étais en ville à Paris, je voulais pas faire ça en ville.
Oui, oui.
Donc le test intime, il a été fait après la rédaction. Mais voilà, encore une fois, je me suis basé sur beaucoup de témoignages directs de gens qui racontaient les heures passées sous champignons. En fait.
Et dans le livre, on voit aussi, alors sans non plus trop dévoiler non plus du roman, un sujet qui est quand même assez universel. On part de quelque chose, d'une coutume, et finalement on pille cette coutume pour en faire quelque chose, pas forcément d'industriel, mais...
Si, on peut le dire. Hein, puisque
d'industriel,
le...
Ouais.
En complètement
tout cas,
industriel, les commerciaux.
Le nouveau monde le récupère de cette façon-là.
Oui, complètement. C'est un peu le sujet politique en fond de cette histoire. C'est quand même une grande histoire d'appropriation. Alors d'une part, une appropriation du vivant, puisqu'on parle d'un champignon, hein, par l'industrie, puisqu'en fait la substance active du champignon qui s'appelle la psilocybine va être dans les années 50, juste après la découverte par les Wesson, synthétisée et reproduite à l'infini, puisqu'on arrive à trouver la formule pour la fabriquer sans prélever le champignon. Comme ça s'est passé pour le LSD juste avant. Enfin. Et puis une appropriation culturelle, effectivement, parce que c'est l'Occident, en l'occurrence les États-Unis, qui tombe sur ce psychotrope qui a été utilisé à des fins de guérison, mais dans un cadre strictement sacré, et qui vont le commercialiser, l'ouvrir à la consommation courante. Donc c'est une grande histoire de désacralisation, on peut le dire aussi, de profanation du champignon. Ouais. Ouais.
On va peut-être passer un petit moment musical qui va faire aussi un lien entre le sacré et passer côté un peu occident, donc avec les États-Unis.
Ouais.
Et vous nous invitez à découvrir un passage, une musique préférée, je crois.
Oui, alors un premier morceau, si je l'aime bien. C'est pas mon morceau préféré des Stones, mais c'est un morceau que j'aime bien des Stones. En tout cas, il a un lien puisqu'il apparaît dans le livre. C'est un titre qui s'appelle We Love You des Rolling Stones, qui date de 68, si je me trompe pas, que j'ai intégré dans le livre parce que je voulais qu'il y ait un peu de Stones, période psychédélique. Et voilà, c'est un morceau qui me sert dans une des scènes. Un peu pour me moquer des hippies qui arrivent dans Wautla, le village de Maria Sabina, et qui sont comme ça complètement extatiques, baba devant les Mazatecs qui les voient arriver comme des hurluberlus, et les hippies reprennent la chanson des Stones, We Love You, en disant ah, c'est génial, merci pour ces champignons, on vous adore, We Love You.
Merci.
Alors je vais lire un petit extrait du livre qui fait écho au morceau qu'on vient d'entendre. En fait, je me suis amusé à placer ce morceau dans le livre. Donc juste pour resituer un tout petit peu la scène, on est je pense autour de 68 ou 69. Là pour le coup, ça y est, la découverte de champignons est dévoilée au grand jour et les hippies débarquent en horde dans le village de Maria Sabina qui était un petit village où personne n'a jamais vu ce genre de drôle de personnage. Et puis les champignons sont vendus au marché, ce qui est la première fois. Donc c'est le début en fait de la profanation, quoi, de la commercialisation du champignon. Et puis un matin, près du marché, on découvre que les champignons sont à vendre sur des étals, à côté des tacos et des tamales, du mezcal, de la marijuana et des cigarettes. La chair des dieux, offerte en plein jour pour 3 pesos, à consommer sur place ou à emporter. Dans la ville, ce matin-là, tout se détraque. Des güeros s'attroupent autour des stands de psilocybes, en achètent des sachets entiers, en gobent quelques-uns, puis vont s'asseoir sur la place du marché, au milieu des tas de cafés et d'avocats empilés sur le sol. L'un d'eux a apporté son pick-up et un vinyle. Sur la pochette, une grosse fleur jaune et les visages des 5 Rolling Stones en guise de pétales. Le disque démarre, et les premières notes du mélotron de Brian Jones résonnent, stoppant tout net les cris des vendeurs ambulants, les conversations des passants. Tous se taisent pour écouter ce son si bizarre de piano électrique, se tournent vers l'endroit d'où il a surgi, aperçoivent alors les güeros qui lentement se lèvent les uns après les autres, font cercle autour du pick-up et se mettent à onduler en rythme, à fredonner par-dessus les chœurs suraigus, par-dessus la voix déformée, réverbérée de Mick Jagger, une voix venue d'une autre galaxie qui dit « We love you ». Et les güeros maintenant chantent à tue-tête et se convulsent, se désarticulent, jouent les épileptiques. « We love you », crie tout sourire le gars du pick-up à l'assemblée Mazatec qui les regarde médusés. « We love you » reprend une autre, en pleurs, possédée, comme sortie tout droit de la grotte du demi-bouc. Et c'est Jagger qui renchérit « We forget the place we're in, cause we love you, we love you ». Alors tous répètent en chœur « We love you » jusqu'à ce que le slogan se précise. Que les déclarations d'amour fusent. We love you, Gordon. We love you, Valentina. And Sabina, my heroine. Bientôt arrêtés par les coups de canne des vieilles Mazatecs, qui, excédées par ce spectacle sidérant, hurlant plus fort que les Rolling Stones et les danseurs réunis, font déguerpir toute la troupe. Interrompus dans leur chant d'amour, essuyant une larme au coin de l'œil, les diables ont tout juste le temps d'embarquer le pick-up et le disque, avant de filer se réfugier tout en bas de la ville, dans leur repère au bord du fleuve. Donc les güeros, c'est le nom donné par les Mexicains pour les Blancs, les Occidentaux, en particulier les Nord-Américains.
Et alors, la place de la musique dans l'écriture, pour vous, c'est important ?
Bah là, ça a été effectivement assez important, puisque on est en pleine période psychédélique. Moi, c'est en plus tout un répertoire musical que j'ai beaucoup écouté bien avant de tomber sur cette histoire de champignons. J'ai écouté 1000 morceaux de cette époque-là, pas que les Stones. Mais donc il y avait un peu un enjeu à faire sentir cette influence qu'ont eu les psychédéliques dans la musique de l'époque. Donc outre We Love You des Stones, là, qui n'est pas tant psychédélique que ça en fait, il y a de temps en temps des apparitions de titres de morceaux un peu iconiques de l'époque. Il y a notamment White Rabbit de Jefferson Airplane qui reprend l'histoire du champignon d'Alice au Pays des Merveilles, qui l'a fait grandir puis rapetisser. Et donc j'ai écouté, effectivement réécouté pas mal de morceaux. La musique psychédélique, elle est intense quand même, donc pour écrire c'est pas toujours facile, pour rester concentré, mais oui, ça avait son importance effectivement.
Il y a une idée du sacré dans le roman, avec ce personnage, le psilocybe, le champignon. Mm-hmm. Comment vous avez réussi à mettre en scène justement ce sacré au sein du roman ?
Ben, en fait, le sacré, il est déjà présent dans tout ce qu'on peut lire sur Maria Sabina. En fait, elle est considérée comme une prêtresse, hein, comme presque une sainte des champignons. D'ailleurs, sur le t-shirt par lequel je l'ai découvert, c'était écrit « Sacerdotisa de los hongos mágicos », donc prêtresse des champignons magiques. Et c'est souvent comme ça qu'on la désigne. Donc, dès qu'on lit des choses sur Maria Sabina, on s'aperçoit de la relation très très sacrée, hautement sacrée qu'elle a, qu'elle entretient avec ses champignons. Qu'elle découvre petite, en fait. On suppose qu'elle en mange à 8-10 ans, donc très très jeune, pour la première fois. Et elle a des apparitions de Dieu aussitôt. Donc c'est immédiatement religieux. Et c'est ce que je voulais retranscrire. Et, et montrer que voilà, enfin faire un travail en tout cas sur les croyances de part et d'autre, côté occidental et côté Mazatec. Donc je m'amuse à un moment à décrire toute une espèce d'assemblée de dieux complètement hétéroclites qui plane au-dessus de Huautla au moment où les hippies sont là et ils vénèrent les dieux indiens, enfin toute cette appropriation culturelle religieuse de l'ère un peu New Age où du coup on imagine que, enfin j'imagine que les dieux mazatèques sont là aussi mais qu'on prête plus ce qui se passe quoi. Et puis enfin voilà, il y a plusieurs chapitres qui tournent autour du sacré, de la croyance. Oui.
Notamment, il y a aussi le rituel avec les premières et la deuxième tentative avec les Watson, où justement là ils vont carrément trans, un peu intronisé par Maria Sabina. Il y a eu des textes, il y a eu une recherche assez facile à avoir ou à trouver.
Sur le côté Watson, oui, puisqu'en fait eux-mêmes ont beaucoup écrit, ils ont beaucoup lu, mais beaucoup écrit, ils publiaient plusieurs gros livres qui, par chance, étaient entièrement numérisés et accessibles en ligne, en fait, puisque dans la communauté psychédélique, en fait, c'est très open source, quoi. On partage beaucoup de savoir, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant là-dessus. Que je pouvais avoir accès à beaucoup
de données, de
matériel, d'archives, dont les livres des Watson, où ils racontent assez précisément en fait, leur première tentative, leur deuxième, la rencontre d'un premier chaman, puis de Maria Sabina, etc. Donc là-dessus, effectivement, j'avais beaucoup de matière assez précise.
Et à l'inverse, justement, Maria Sabina, est-ce qu'elle a laissé des... Parce qu'elle a vécu très vieille, je crois. Est-ce qu'elle a laissé des traces, justement, écrites pour pouvoir... aussi comprendre un peu toute cette épopée.
Oui, il y a des choses sur elle aussi, alors qu'ils ne sont pas de première main, puisque en fait, elle ne savait pas ni lire ni écrire. Elle parlait mazatec et un tout petit peu d'espagnol, parce que voilà, c'était pas complètement autarcique comme village. L'espagnol était un peu arrivé, mais elle ne savait pas écrire. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que sur la fin de sa vie, dans les années 80, il y a un ethnographe mexicain qui est venu l'interviewer pendant des heures, l'enregistrer, raconter sa propre vie en mazatec. Ça a été traduit en espagnol, puis en français. Chez Point, d'ailleurs, je crois, au Seuil, ils ont réédité. Ça s'appelle La Sage aux champignons sacrés.
D'accord.
Et oui, c'est son autobiographie, en fait.
D'accord, ouais.
Donc on trouve pas mal de choses, notamment cet épisode du dindon, là, où son père est changé en dindon. Ça, c'est... J'ai pas inventé ça, c'est elle qui le raconte comme ça.
Et avec ce champignon, justement, il y a aussi un rapport culturel qui est encore implanté au Mexique ou pas du tout ?
Oui, c'est encore un sujet compliqué que les champignons psychédéliques, psychotropes au Mexique, comme ailleurs en Amérique latine. C'est-à-dire qu'il y a en fait une espèce de tourisme chamanique qui a commencé avec l'histoire que je raconte dans les années 50-60, qui a commencé avec les Watson, en fait, indirectement. Et qui est toujours d'actualité. Les gens vont se perdre en pleine jungle amazonienne pour l'ayahuasca, mais ils vont aussi au Mexique pour manger des champignons. Et c'est toujours un problème, parce que en fait, il se trouve que quand il y a des botanistes qui sont dans le coin de Huautla ou d'ailleurs dans cette région-là, dès qu'ils trouvent des champignons hallucinogènes, ils s'empressent de les planquer ou de les détruire pour pas que le village se transforme en une vitrine... à touristes, en fait, un Disneyland du psychédélisme. Donc ça reste encore quelque chose qui déséquilibre pas mal les modes de vie locaux, en fait, parce que du coup le boulanger se met à vendre des champignons, le maçon aussi, et plus personne ne sait rien faire si ce n'est vendre des champignons aux touristes.
Oui, il y a comme une sorte de spoliation, je ne sais pas si on peut le dire, carrément de tous ces champignons et puis aussi de leur culture au final, qui a été quand même pas mal piétinée.
Oui. D'autant plus que c'est quelque chose qui, encore une fois, n'était consommé que par des sages, comme Maria Sabina, pas par tout le monde. Et dans des temps donnés, c'était la nuit, c'était à la maison, il fallait que ce soit un peu caché. Et voilà, dans l'histoire que je raconte, c'est le champignon qui s'offre au grand jour, que tout le monde achète.
Se démocratise.
Oui.
Un petit peu.
Oui, aussi. Oui.
Ouais. Vous y attribuez aussi un pouvoir aux champignons. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Bah alors, le champignon a des pouvoirs. C'est pas moi qui les invente, ça, pour le coup, puisque c'est un psychotrope très puissant qui est assez comparable en fait au LSD. Donc, extrait de l'ergot de seigle, il a des pouvoirs hallucinatoires et Maria Sabina, à ma place, dirait qu'il a des pouvoirs de guérison, de prédiction, de clairvoyance, etc. Donc, clairement, ce qu'on appellerait nous pouvoirs magiques en bandes occidentaux. Mais voilà, dans les premières pages, je m'amuse à personnifier le champignon que j'appelle Psilocybe, enfin c'est son nom, hein, Psilocybe, mais je lui mets une majuscule comme si c'était un nom de personnage. Et voilà, il y a cette espèce d'énumération de Psilocybe. Psilocybe pousse dans l'ombre. Enfin, je veux que dans les premières lignes, les lecteurs s'imaginent un personnage de magicien en fait.
Ça est comme un conte en fait. On a l'impression d'entrer dans un conte.
Oui.
Et puis finalement, bon après plus trop. Mais c'est vrai qu'on a l'impression aussi de rentrer en fait dans cet effet un peu du champignon en rêvant à un conte qui finalement ne va peut-être pas bien se terminer.
Oui.
Donc c'est quand même assez déstabilisant.
Un conte sans morale à la fin, enfin sans morale explicite. J'y tenais un peu aussi à ça, à ce que les lecteurs comprennent en cours de route ou à la fin que ben voilà, c'est pas qu'une histoire de découverte, c'est aussi une histoire d'appropriation, de tout le mal que peut faire l'Occident sur les cultures étrangères. Mais voilà, je voulais que ça reste un peu en suspens, qu'on le comprenne subtilement. Et avec des nuances, parce que les Wasson, c'est pas non plus que des mauvais bougres. Hein.
Oui, non, c'est ça.
Je voulais les montrer aussi dans leur côté très curieux, découvreurs, enthousiastes.
Oui, finalement, ça les a peut-être dépassés, tout ça.
Complètement, complètement. Ils le disent eux-mêmes à la fin. Hein. Bon, Wasson, il est assez cynique, lui. Elle meurt très jeune, malheureusement, alors qu'elle aurait fait une grande carrière aussi dans cette histoire. Mais lui est assez cynique sur la fin de sa vie. Il dit, bon, bah, mon terrain d'études est foutu. Tous ces hippies sont arrivés, ils sont mis à manger de façon effrénée les champignons. Est-ce que je regrette ? Non, parce que il le dit comme ça. Hein, si c'était pas moi qui l'avais fait, 10 ans plus tard, quelqu'un d'autre serait arrivé et l'histoire se serait passée de la même façon.
Le côté banquier, quoi.
Voilà, c'est ça.
Le requin.
Sans scrupule, ouais.
Alors, vous nous avez dit, vous avez une profession professeur. En espagnol. Donc il y a une attirance pour l'Amérique du Sud. Est-ce que vous allez nous inviter à un autre voyage pour peut-être le troisième roman sur justement l'Amérique du Sud ?
C'est pas prévu, non. Je pense que ce sera plutôt un paysage français dans les quelques idées qui tournent dans ma tête là, que j'ai pas vraiment encore formalisé. Je voudrais travailler plutôt sur quelque chose du paysage français, quoi.
D'accord.
De ce qu'on fait du paysage aujourd'hui, de l'extraction, voilà.
Ok.
Ce sera moins exotique.
Ah mince. On était bien, parce que quand on lit vos romans, c'est ça qui est bien, on a l'impression vraiment de voyager dans le pays où le tout premier roman est hyper, hyper coloré, on sent l'agitation, le pays qui bouge de partout. Là, peut-être un peu moins dans le deuxième roman. Mais c'est vrai qu'on sent quelque chose de très solaire, en fait, au niveau des deux pays. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a envie d'en découvrir encore plus.
peut-être. Il n'y a rien de précis encore, mais j'espère réussir à maintenir cette espèce d'évasion sans aller très loin géographiquement.
Oui. Bon, des fois, il n'y a pas besoin de partir très loin pour avoir l'impression de voyager. On va passer au deuxième extrait qui, là, est votre chanson préférée, je crois.
Une des chansons favorites du moment, quoi, que j'écoute beaucoup, que j'ai beaucoup écouté il y a quelques mois, qui est une chanson des Cocteau Twins, qui est un groupe que j'aime beaucoup, des années 80-90, et qui s'appelle, je crois, Sea Swallow Me, qui est là, pour le coup, dans un imaginaire plutôt maritime et non pas terrestre, mais qui me fait beaucoup rêver en tant que Brestois.
La Bretagne est pas loin, donc.
Voilà. Donc c'est une chanson un peu océanique.
D'accord. Eh bien, on en prend le bateau et on y va.
Parti.
Yeah.
Nous voilà de retour, nous sommes retombés sur la terre ferme et nous retrouvons Benoît Coquille, que nous remercions de s'être prêté au jeu des questions-réponses pour lecture en tête-à-tête. Merci beaucoup.
Merci à vous.